On a beaucoup de joie de vous accueillir. Je pense qu'il y a des amis de Justina, la famille de Justina. Soyez les bienvenus. Et puis pour tous ceux qui nous visitent, qui êtes là peut-être pour les premières fois, soyez les bienvenus. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Nous sommes rentrés dans une période un peu particulière. Je pense que ça va marcher. Où on se pose une question. Alors, pardon, hein, j'aurais pu mettre reine, hein, on est d'accord. J'entends déjà ma femme me dire, t'aurais pu mettre reine. Alors c'est vrai, ça, c'est censé nous parler, hein, parce qu'en tant que chrétien, on associe souvent l'épiphanie à une fête chrétienne, en se disant, ben, la tradition chrétienne, ou en tout cas nous rappelle que c'est dans cette période que trois rois mages, Balthazar, Melchior, Gaspard, sont venus voir Jésus et lui ont apporté des cadeaux. Alors j'aime bien mystifier les trucs ou démystifier les choses ou en tout cas clarifier les choses parce que pour être très honnête, il y a plusieurs problèmes avec cette version. La première, c'est que je vais en décevoir beaucoup. Melchior, Gaspard et Balthazar, c'est pas biblique, hein, on est d'accord. Ils n'étaient pas forcément trois non plus, hein, on ne sait pas. Vous pouvez chercher dans les Écritures parce que rappelons-nous que la Bible fait foi quand même et que ces noms sont apparus au cours du 8e siècle. Dans une tradition un peu obscure, on ne sait pas trop. Et puis aussi, ils étaient mages, mais ils n'étaient pas rois. C'est important de le comprendre, parce que c'était sans doute des scientifiques, des hommes qui observaient le ciel, mais ils n'étaient pas rois du tout. Alors du coup, ça casse un peu le délire, surtout quand on apprend que l'épiphanie, à la base, l'histoire de la galette des rois, ce n'est pas une histoire du tout chrétienne, c'était dans l'Antiquité, les Romains organisaient tous les ans lors de la période du solstice, donc organisaient un espèce de grand repas où une galette était donnée et ça correspondait à un fruit de la moisson ou une période de la moisson où ils semaient et ils mettaient à l'intérieur d'un gâteau une fève, une vraie fève, comme vous pouvez la voir. Et je crois que c'était en lien avec Saturne. Et celui qui obtenait la fève était roi d'une journée. Il faut savoir qu'ils se réunissaient tous autour d'une table, maître, esclave, et ils partageaient le même gâteau. Et celui qui tombait sur la fève était le roi du jour. Voilà pour la petite histoire. Donc on est très très loin de la tradition chrétienne, on est d'accord? Alors c'est très marrant, et ça nous fait tous sourire de savoir qui sera le roi. Peut-être à midi, vous avez même prévu la galette. Je vous casse un peu le délire, mais c'est bien de rectifier un peu les choses et de les mettre dans leur juste contexte, on est d'accord? Alors cela dit, il n'y a rien de mal à aller chercher qui sera le roi. Cela dit, en me posant une vraie question en ce début d'année, la question résonne différemment. On peut se poser la question lors de nos repas, qui sera le roi? Moi, j'aimerais te poser la question dans ta vie. Qui sera le roi? Et c'est important parce que si on veut prendre un bon ancrage dans notre vie, et je pense que chaque début d'année, c'est ce questionnement, on veut prendre de bonnes habitudes, on veut prendre de bons principes. Pourquoi pas? Mais la vérité, c'est que la meilleure façon de commencer l'année, c'est de poser les vraies bases, se dire les vraies choses. Entre guillemets, et je pense que c'est aussi ta démarche spirituelle, Justina. Qui sera le roi de mon année 2024? Qui va régner sur mon année 2024? Et lorsque je réfléchissais à ça, un texte, vous allez voir, c'est assez particulier, un texte est venu sur mon cœur, c'est le livre de Ruth. Vous connaissez le livre de Ruth? Et le livre de Ruth est un livre très intéressant, et dans le premier chapitre, la question va se poser. Dans les premiers versets de l'histoire de Ruth, la question va se poser dans la vie d'un homme. Et on va le lire de suite. Ruth, chapitre 1, verset 1, « À l'époque où gouvernaient les juges... » Alors, le texte, c'est très intéressant parce qu'il permet de remettre dans un contexte. L'époque où gouvernaient les juges est une époque qui fait suite à... S'il vous plaît. À Josué, on est d'accord? Et après Josué, on a Samuel, on y est bien. Et cette période-là va durer à peu près 400 ans. 400 ans où Israël va vivre des temps, comment dire? C'est mi-figue, mi-raisin, hein? Comme ci, comme ça. autant ils vont voir Dieu agir, autant ils vont vivre beaucoup de difficultés, beaucoup d'opposition. Et souvent, lorsque Israël allait mal, Dieu va susciter des juges, dont c'est ce dont il est fait question, des juges qui vont gouverner de façon... Bon, là encore, il y a beaucoup de choses à dire. Des hommes et des femmes que Dieu va choisir pour guider le peuple, les aider à plus ou moins se sortir de galère. Et c'est dans cette période-là, des juges, où tout un tas d'hommes et de femmes vont se succéder, vont gouverner, vont conduire Israël dans des prises et des prises de position, des choix spirituels par moment, mais aussi des choix militaires. Dieu va à la fois bénir, mais ça va être un temps aussi un peu particulier. Et dans cette période des juges, il est dit une chose qui moi m'a souvent interpellé, c'est Juges chapitre 21, verset 25, il dit « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. » Je pose le cadre. Je nous pose la question « Quel va être ton roi en 2024 ?» Et en même temps, je prends un texte où il n'y a pas de roi. Et alors qu'il n'y a pas de roi en Israël pendant cette période, le texte poursuit, et on pense que c'est Samuel qui a écrit ça, il va dire « Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » C'est un peu l'anarchie, en fait. Pas droit, chacun faisait un peu ce qui lui plaisait. Mais c'est plus subtil que ça. Chacun faisait ce qui lui semblait bon de faire. Et peut-être on peut y voir quelque chose de positif là-dedans, de se dire, bah, finalement, c'est pas si mal que ça, de faire ce qui lui semble bon. Alors, et comprenez, je vais prendre le côté positif de ce qui lui semble bon de faire. C'est qu'à un moment donné, on a jugé d'une situation et par rapport à cette situation, on estime que le meilleur est de faire ça. Et ça va être le cas de cet homme dans lequel on va rentrer, l'histoire poursuit. Les juges gouvernaient et à cette époque-là, une famine est survenue dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, émigra avec sa femme et ses deux fils pour s'établir dans la région du champ de Moab, ou en fonction des versions que vous pourriez trouver, dans le royaume de Moab. Le texte poursuit, et c'est très intéressant parce qu'on va apprendre plein de choses. L'homme se nommait Élimélec, sa femme Noémie, et ses deux fils Malon et Kilion. C'est très intéressant parce que bien souvent, les prénoms utilisés dans la Bible révèlent des choses très intéressantes sur le parcours des uns et des autres, sur les choix. C'est les parents en général qui donnaient évidemment, et c'est encore le cas aujourd'hui, le prénom à leurs enfants. Et lorsqu'on analyse les choses, on se rend compte que bien souvent, les choix des parents se portaient dans une vision spirituelle de leurs enfants. Ça va être le cas des parents d'Élimélec et de sa femme Noémie, puisque quand on regarde les traductions de leurs prénoms, ça va s'afficher. Élimélec, et vous allez voir, mon Dieu est roi. C'est pas beau ça? Il y a une aspiration malgré tout dans les parents d'Élimélec de donner une orientation spirituelle. Si Israël à l'époque n'avait pas de roi, c'est que pour beaucoup à l'époque, malgré tout, il considérait qu'il y avait un roi spirituel, et c'est ce qu'on appelait à l'époque aussi une forme de théocratie, où Dieu était au contrôle de la destinée du pays, et Élimélec a été sans doute enseigné dans cette direction, à tel point que ses parents ont décidé de l'appeler « Mon Dieu est roi ». Et chaque fois que vous verrez Élimélec, pensez à « Mon Dieu est roi ». C'est tellement important de comprendre cette réalité parce que par moments, on peut vivre Dieu sans le vivre comme roi. Je sais pas vous. C'est une bonne question, ça. Parce que je vais vous donner une vérité. Choisir de devenir chrétien, c'est choisir quelque part que Dieu soit notre roi. Je vais établir cette vérité, en fait. Et Élimélec, c'est un très joli prénom à donner.
Tais-toi, Pierre.
Bah, y a des Noémie parmi nous. Ma gracieuse. Donc, partez du principe que chaque fois que vous verrez Élimélec, il y a mon Dieu et roi, et Noémie, pareil, ma gracieuse. Sauf que l'histoire continue. On connaît le nom des parents, mais vous allez vous rendre compte que les parents, ils n'ont pas été aussi bien inspirés que leurs propres parents. Méfiez-vous des prénoms bibliques. Malone veut dire malade, maladie, et Kilion veut dire épuisement. Alors souvent, les prénoms peuvent être donnés dans le contexte biblique en rapport avec une vision qu'on veut donner à leurs enfants, mais bien souvent, les prénoms, il manquait d'imagination, Elimelech et sa femme, parce que c'est souvent en lien à la naissance de leurs enfants. Visiblement, le premier, quand il arrive, eh ben, il n'est pas bien. Et le second, il fait que dormir. Et du coup, on finit par maladie et fatigué. Vous imaginez le délire ? Ils appelaient leurs enfants malades, fatigués à table. C'est chaud à porter quand même. Hein. Et on se rend compte que Elimelech et sa femme font des choix bizarres de prénoms malgré tout. Il faut porter le truc. Et ce qu'il y a de paradoxal dans cette histoire-là, c'est que Elimelech, donc celui qui a choisi mon Dieu et mon roi, prend sa femme, ma gracieuse, ses deux enfants malades et épuisés, et ils partent tous à Moab. Il y a quelque chose de paradoxal dans cette histoire, c'est que tout en s'appelant l'Éternel ou mon Dieu et mon roi, Éliakim va faire un choix que Dieu ne lui aurait jamais demandé de faire. Moab était considéré comme un peuple qu'Israël devait éviter. Plein de choses m'amènent à le dire, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que ce peuple a fait, mais même l'existence même de Moab, même s'ils ont, il y a du sang commun, parce que on parle de Lot là, dans cette histoire-là, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais Moab naît d'un inceste voulu, comprenez, c'est vraiment particulier, où les filles vont coucher avec leur père volontairement. Elles vont le saouler. Et Moab naît de ce contexte-là. Mais Moab est issu d'un contexte spirituel lourd, compliqué, avec de l'idolâtrie, avec des sacrifices, beaucoup de choses qui sont négatives. Et Dieu, clairement, n'aurait jamais pu dire à Éliakim, « Va dans Moab !» Impossible ! D'ailleurs, si Dieu avait dit une chose à Éliakim, « Surtout, Éliakim, ne mets pas les pieds là-bas !» Et le paradoxe vient d'un homme qui porte le nom de l'Éternel, mon Dieu et mon roi. Pour autant, il fait tout l'inverse. Il part dans un pays où il n'aurait jamais dû mettre les pieds. Il fait des choix qui ne sont pas les bons choix. Et clairement, il démontre une réalité, c'est que par moments, nous portons le nom de personnes qui ont choisi l'Éternel pour Dieu, et pour Seigneur et pour roi, mais nos actions sont complètement à l'opposé. Encore une fois, être chrétien n'a de sens que si nous nous appelons réellement Éliakim. Mon Dieu et mon roi. Dans le cas contraire, on sort du projet de Dieu pour nos vies. Dans le cas contraire, on fait des choix qui nous appartiennent. Des choix qui pourraient nous amener à être dans des situations compliquées et vous allez vous rendre compte que pour Éliakim, les choses vont se compliquer rapidement. Celui qui s'appelle mon Dieu et mon roi va finir par subir ses propres choix. Parce qu'en effet, on pourrait se poser la bonne question, ou en début d'année, de se dire, finalement, on ne sait pas ce qui nous attend, et très honnêtement, peut-être vous-même, vous posez les questions, on est dans un contexte actuel qui nous interpelle, entre les guerres qui sont aux portes de l'Europe, celles qui sont au Proche-Orient. Très honnêtement, on peut se questionner sur l'avenir qui nous attend, sur le contexte économique, politique qui est le nôtre, on se pose peut-être plein de questions, mais la réalité de ce que nous vivons en tant que chrétiens, est-ce que les circonstances doivent nous impacter autant dans nos choix. La réalité de ce que vit Éliakim, c'est qu'il avait de bonnes raisons de partir à Moab. Les circonstances sont devenues mauvaises. Dans son pays, il est à Bethléem, paradoxalement la ville du pain, il n'en trouve plus ou il est en difficulté pour en trouver face à cette situation qui se détériore, face à un contexte économique qui se détériore parce qu'il vit une famine, difficulté pour se nourrir. Il va faire le choix qui lui semblait bon faire. Mais qui est d'accord pour dire que ce n'est pas parce qu'on pense faire le bon choix que c'est le bon ? C'est pas si évident que ça. Et Eliakim a tout pour, tout un contexte qui l'amène à dire je suis en train de faire le bon choix là. C'est logique en fait que je parte à Moab. On ne trouve plus à manger, c'est la famine là où on est. On va quitter Bethléem et vous voyez, lorsqu'il va prendre sa famille avec lui, ils vont contourner la mer morte. Ils vont passer pas très loin de Qumran, ils vont descendre et puis ils vont arriver à Moab. Ils vont s'installer à Moab et peut-être de prime abord, la décision qui s'imposait à lui face aux circonstances qui étaient les siennes, c'était celle de partir. Si les circonstances nous échappent, écoutez-moi bien, si les circonstances nous échappent, le choix reste entre nos mains. Alors on pourrait me dire, mais Pierre, tu ne sais pas ce que je vis, tu ne sais pas combien c'est compliqué, parce que, soyons très clairs, on a tous nos famines, à différents niveaux dans nos vies. On a tous de bonnes raisons de quitter Bethléem pour partir à Moab. On a tous de bonnes raisons de dire, là, je ne pouvais pas faire autrement. Le choix t'appartient. Et si les circonstances se détériorent, et si la circonstance, le paysage, l'environnement dans lequel tu es se détériore, t'amène à dire, mais c'est la famine. Et tu pourrais même te trouver une bonne excuse de dire, bah finalement, peut-être le contexte spirituel n'est pas terrible à moi, mais au moins on va bien manger. Parce que bien souvent, ce sont ces enjeux-là que nous vivons. Hein. On vit tous ces famines qui nous amènent à réfléchir sur notre condition et qui nous amènent à se dire « Ah, ce serait peut-être pas plus mal d'aller en Moab. » Vous aurez tous la tentation de partir à Moab. Soyons vrais. On sera tous tentés de partir en Moab. Même si Moab, c'est pire que tout. On voit l'avantage face aux circonstances qui sont les nôtres, face à un contexte spirituel qui est là, face à une situation. C'était devenu à une terre de famine, Bethléem. Et là, finalement, le choix s'est imposé à nous. Nous avons fait, Eliakim a fait le choix de partir avec sa femme et ses deux enfants à Moab, là où il n'aurait jamais dû mettre les pieds. Peut-être qu'en 2024, je le souhaite à personne. Mais tu pourrais être amené à vivre une famine. Alors mettez derrière la famine, l'idée de la famine, ce que vous voulez. Peut-être un problème dans ton travail, peut-être une situation difficile, peut-être un conflit, peut-être un problème d'argent. Mets ta famille où tu veux, dans le contexte que tu veux. T'amenant à te projeter, à faire le choix qu'il ne faut pas faire. Et finalement, Moab devient le territoire de la facilité. Ah, punaise. Même ça résonne dans nos têtes. Ah, ça serait tellement plus simple si j'étais pas chrétien. Ah, ça serait tellement plus simple si j'avais pas de moralité. Ah, ça serait tellement plus simple si j'avais pas certaines valeurs. Ou même l'idée d'être Eliakim. Comprenez l'idée, Eliakim. Mon Dieu et mon roi devient un vrai problème spirituel. Ah, bim. Eh oui, Elimelech, j'y tiens. Elimelech pose un vrai problème en tant qu'enfant de Dieu. Être celui que Dieu veut que nous soyons. Et se dire, ah, punaise. Elimelech. Est-ce que j'ai encore envie d'être Elimelech ? Est-ce que finalement Moab pourrait pas être une solution ? Alors je pose la question, qui est le roi de ta vie actuellement ? Est-ce que finalement ce sont tes choix qui dominent, t'amenant à faire quelques passages à Moab ? Parce qu'il y a des besoins ? Parce que tu vis une famine ? Ou est-ce que tu as fait le choix de t'appeler Elimelech dans le plus profond sens du terme, mon Dieu et mon roi. Est-ce que les choix du bon sens sont toujours les bons ? Elimelech va faire ce choix, qui est un choix peut-être du bon sens. Je parlais de logique. Et vous remarquerez que bien souvent, les choix du bon sens et de la logique s'imposent à nous. Quand bien souvent les choix sont logiques et sortent du bon sens, c'est là qu'on est les moins vigilants dans ce que Dieu veut pour nos vies. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est quand ça ne devient pas évident que, ah oh, Seigneur, est-ce que... Mais quand le choix de la logique et du bon sens vient à notre porte, on en est moins regardant, moins enclin à se dire, ah ben Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? Et je pense que c'est ce qui s'est passé pour cet homme. Je pense que Élimélec, à un moment donné, s'est retrouvé face à une situation. Il y a un problème de famine. Qu'à cela ne tienne, partons du pays. Parce qu'en plus, on entend qu'à Moab, ça se passe bien. Il y a des plaines fertiles, il y a de l'eau, il y a de l'abondance. Et puis on se dit, oh punaise, à Moab, ça a l'air super bien. Et puis quelque part, on fait un raccourci. Je voudrais nous mettre en garde contre les raccourcis cette année. Les raccourcis qui sont issus d'une logique, qui sont issus de choix de bon sens. Alors par moments, les choix de bon sens vont être bons. Et me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Tout ce qui est de bon sens et logique n'est pas forcément mauvais non plus, hein, on est d'accord. Hein. Mais par moments, au lieu de tomber dans le choix raccourci de dire « c'est logique, ça a du bon sens, allons-y », est-ce que, Seigneur, tu n'aurais pas quelque chose à me dire? Et je pense que si cet homme, si Élimélec avait fait, ne serait-ce qu'un instant, cette prière, lui qui est censé être un disciple de l'Éternel, mon Dieu et mon roi, s'il avait, ne serait-ce que quelques instants, demandé à son roi ce qu'il en pense, peut-être que l'Éternel lui aurait dit « n'y va surtout pas ». Mais Seigneur, c'est tellement évident, ça répond à une telle logique d'y aller. Ça peut pas être autrement. Ben si, justement. Par moments, les choix de bon sens et de logique ne sont pas ce que Dieu attend de nous. Et l'évidence nous fait prendre des chemins de traverse, mais qui occultent ce que Dieu veut vraiment. Et parce que ça répond à du bon sens, alors nous sommes moins vigilants, nous sommes moins regardants. Et on laisse les choses couler. Et regardez ce qui va se passer pour Élimélec. Élimélec, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. On comprend que très rapidement, à partir du moment où Élimélec va mettre un pied à Moab, c'est fini. Les fils de Naomi prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là encore environ 10 ans. Regardez. Malades et fatigués moururent. Aussi tous les deux, et Naomi, ma gracieuse, resta privée de ses fils et de son mari, quand la logique nous fait mourir. Quand ce qui paraît évident devient un piège dans lequel nous perdons tout. Je veux nous interpeller parce que l'année dans laquelle nous rentrons va être nourrie de ces aventures, de ces opportunités qui vont venir à nous. Et merci Seigneur pour ces beaux opportunités, parce qu'il y en a qui seront géniales, il y en a qui seront merveilleuses, il y en a qui vont ouvrir des portes, il y en a qui vont changer ta vie, il y en a qui vont être riches, il y en a qui vont être belles. Et puis il y en a dans lesquelles il vaut mieux jamais y mettre les pieds. Et souvent, cela fait référence, et pour beaucoup de ce que tu vas vivre avec Dieu cette année va dépendre de cette position de cœur à dire « Éternel, c'est super logique que j'y aille ». Parce que là où je vis la famine, il y a une porte qui s'ouvre. Merci Seigneur. Oui, possible. Mais je voudrais t'encourager à être vraiment spirituel. Parce que être vraiment spirituel, c'est cette posture de dire, même si c'est logique, même si ça répond à un besoin, même si tu vois ta famine disparaître et fondre en te disant, oh, ça va être trop bien, on va partir du haut, on va ouvrir une porte. Est-ce que tu es sûr que Dieu est en train d'ouvrir une porte? Élimélec aurait mieux fait de se poser la question. Élimélec aurait mieux fait de se demander si c'était ce que Dieu voulait. Est-ce que c'était le désir de Dieu? Et comprenez, nos bonnes intentions ne suffisent pas. Élimélec pensait faire ce qui lui semblait bon de faire. Et nos bonnes intentions ne suffisent pas pour réussir. Ça saurait en fait. Dieu sait mieux que nous-mêmes ce que nous avons besoin de faire et d'entreprendre. Maintenant, on va continuer l'histoire, vous voulez bien ? Parce que l'histoire ne reste pas là. Lorsque cette maman qui a perdu donc son mari, ses deux enfants, va se questionner, elle va se dire à un moment donné, j'ai tout perdu. Et elle va apprendre que dans le pays d'où elle vient, elle apprend que Dieu a visité son peuple et lui a donné du pain. Alors, on parle de Bethel, on est d'accord. Et Naomi, cette maman qui a tout perdu, se retrouve dans un pays qui n'est pas le sien, au milieu d'un peuple qui n'est pas le sien, et puis elle entend que dans son pays, Dieu a donné du pain. Vous imaginez la claque qu'elle vient de se prendre? Ça passe complètement inaperçu, ce texte. Ou dans la compréhension de ce qu'on vit, elle quitte tout pour avoir du pain. Elle quitte un pays parce qu'elle pense qu'elle va mourir de faim. Elle arrive dans un pays où elle perd plus que ce qu'elle aurait pu perdre quand elle apprend que le pays qu'elle quitte et les raisons pour lesquelles elle quitte ce pays, Dieu a béni. Et ils ont du pain. Quel non-sens. Mais quelle horreur. Tout ça pour ça. Mettez-vous à la place d'elle. Il y a un monde qui s'écroule. Elle fait un choix terrible. Son mari fait un choix terrible. Elle décide de tout quitter. Elle pense répondre à une logique. Elle suit son mari. Et puis alors qu'elle part avec ses enfants, tout ça, elle pense trouver le bonheur. Enfin de quoi se nourrir. Parce qu'elle pense que dans son pays, ils vont mourir de faim. Elle arrive dans son pays. Elle s'installe. Son mari meurt. Ses enfants meurent. Elle se retrouve seule dans un pays où elle ne connaît personne. Et là, elle apprend. Ben finalement, Dieu a béni. Moi, je voudrais juste asseoir une réalité dans ta vie. Moi, si j'avais le choix de rebaptiser le nom de cette église, j'appellerais notre église Bethel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a une église qui s'appelle déjà comme ça. Mais je trouve que c'est tellement beau, Bethel. Bethel, comprenez-moi. Bethel, c'est pas la ville où le pain abonde dans le sens où on le pense. C'est pas la ville où il y a de la facilité. C'est pas la ville où tout est au contrôle. Bethel, c'est pas du tout cette image-là. Bethel, c'est la ville où Dieu pourvoit. Vous comprenez la notion ? C'est la ville où Dieu pourvoit. Et dans la ville où Dieu pourvoit, on est soumis aux circonstances. On est soumis à ce que Dieu veut et à la façon dont Dieu gère les choses. Mais c'est ça le problème. Cet homme va faire un choix de quitter Bethel parce qu'il voulait retrouver du contrôle. Élimélec va tout quitter, va embarquer sa famille parce qu'il voulait contrôler ce que Dieu avait décidé de pourvoir dans sa vie. Par moment, il faut réaliser que la marche du chrétien, sa demeure, il faut se le dire, c'est la marche par la foi, on est d'accord. Mais personne n'a envie de marcher par la foi. C'est trop compliqué. On préfère marcher par la vue. On préfère tenir les choses. On préfère les contrôler. On préfère se dire, ah ben j'anticipe les choses, je vois les choses arriver. Non mais, sauf que la réalité de la marche du chrétien, une marche non pas par la vue, mais par la foi, on est d'accord. C'est pas une marche facile, Bethel. Mais la réalité est la suivante, c'est la marche dans laquelle Dieu veut que nous marchions. C'est la marche où Dieu décide de bénir quand il veut, de fournir le pain quand il le veut. Alors on fera des choix, et cette année, tu auras le choix vraiment d'aller à Moab. Tu auras des opportunités qui vont te faire miroiter des projets. Ah, maintenant on va pouvoir vivre ceci. Ah, enfin on va pouvoir vivre cela. Tu vas avoir ces choix, ces choix de logique, d'abondance qui pourraient se présenter avec toi, devant toi. Et tu vas te dire, ah, ça y est, je vais être enfin confortable. Vive Moab. Même si le contexte spirituel est pourri, c'est pas grave. Je vais être un peu plus sous contrôle. Ça se questionne, hein. Parce que quand on vit la famine, ça se questionne. Mais c'est tout l'enjeu du combat, de la marche du chrétien. C'est que par moments, Dieu va nous dire, fais-moi confiance, reste à Bethel. Mais attends, Moab, quand même, fais-moi confiance, reste à Bethel. Parce que Bethel, c'est là où Dieu pourvoit. Ce n'est pas les circonstances qui vont pourvoir à Bethel. Et aujourd'hui, se pose cette question-là. Tu es à Bethel, Moab, et te semble tellement mieux. Et Dieu veut parler à quelqu'un ce matin et te dire, mon enfant, je t'en supplie, reste à Bethel. Reste à Bethel. Bethel. C'est une place un peu particulière, c'est là où Dieu pourvoit. Et je voudrais t'encourager à marcher dans cette disposition de foi. Disposition où Dieu va t'inviter à marcher dans cette année 2024, dans ce pas de foi. Ce pas où Dieu te dit, fais-moi confiance, reste là où tu es et je vais pourvoir. Moab va se présenter à toi. Les opportunités vont se présenter à toi. Elles seront peut-être nombreuses. Mais passe-les par l'interrogation. Tourne-toi vers ton Dieu. Demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Quel est ton plan ? Quel est ton plan, Seigneur ? Bethléem est un mot fort de sens pour nous qui sommes chrétiens, parce que si l'épiphanie telle qu'elle est ne veut trop rien dire, Bethléem pour nous, c'est là où Dieu a pourvu, on est d'accord ? N'est-ce pas là où Jésus est né ? Il a pourvu abondamment pour ta vie, mon frère, ma sœur. Il a pourvu le tout accompli de Dieu et manifesté à Bethléem au travers de la venue de Jésus. Il vous est donné un sauveur. Dieu a pourvu à Bethléem, non ? Vous êtes là encore ? Alors, ce qui est beau, c'est que Naomi va poser la question à ses sœurs, à ses filles, à ses belles-filles. Elles sont là. Et Naomi va faire le choix de revenir à Bethléem. Pas facile, vous imaginez ? Souvent, revenir, ça paraît tellement simple. Mais imaginez-vous, elle est partie avec son mari et ses deux fils. Et elle revient dans son pays. Peut-être des gens lui ont dit, hey, « Hé, Naomi, mais partez pas. Faites pas ça. Qu'est-ce que vous allez faire chez Moab ?» Vous imaginez le regard des gens quand ils vont la voir revenir ? Où est ton mari ? Où sont tes enfants ? Le regard des uns et des autres, c'est pas toujours le choix facile. Peut-être que cette année, en 2023, l'année dernière, tu as fait le choix, tu as fait tes propres choix, les choix qui te semblaient bons de faire. Je ne te juge pas, vraiment, comprends-moi, parce qu'on l'a tous fait ça. On a tous eu nos moments de famine qui nous ont amenés à nous déporter et à partir dans d'autres choix, dans des choix qui n'étaient pas rationnels ou spirituellement pas à la hauteur. On a tous, à un moment donné, choisi Moab au lieu de rester à Bethléem. Et alors qu'on est à Bethléem, alors que Naomi est en train de se questionner sur son avenir, elle décide de rebasculer, elle décide de retourner à Bethléem parce qu'elle a entendu que Dieu est en train de pouvoir donner du pain à son peuple. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais en même temps, dans son cœur, c'est dur. Alors elle rentre dans une discussion avec ses belles-sœurs. Elle leur dit, mes filles, mes belles-filles, retournez auprès des vôtres. Elle va le dire. elle va dire à ces deux belles filles, à Orpa et Ruth, vous êtes des Moabites, vous pouvez rester au milieu de votre peuple. Moi, je rentre chez moi, je rentre à Bethléem, c'est ma maison. Je me suis trompé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est trompé en 2023, c'est possible. Et retourner à Bethléem, c'est compliqué, mais je veux t'encourager à le faire. Naomi va le faire. Et par moments, dans ces choix qui sont lourds de sens, qui sont compliqués à vivre, Naomi va faire le choix, elle va dire à ses belles-sœurs, à Ruth et à Orpa, restez parmi les vôtres, moi je rentre à la maison, je rentre à Bethléem, c'est ma maison, c'est là où je suis, c'est là que je veux vivre, c'est là que je veux rejoindre mon peuple. Alors Orpa, elle va, après de longues discussions, des pleurs parce qu'elle s'aime, elle s'affectionne particulièrement, Orpa va décider de rester au milieu de son peuple. Et puis elle va faire une grande carrière aux États-Unis, elle va devenir présentatrice. Non, c'est trop nul. Oubliez ça. On ne connaît pas la suite d'Orpa. Et après, vous avez Ruth qui, elle, va faire un choix un peu particulier. Ce n'est pas évident. Ce Dieu qu'elle ne connaît pas, qu'elle a appris à découvrir par rapport à son mari, mais en disant, est-ce que c'est facile de comprendre les choix, mais elle va dire, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, ton pays sera mon pays. Et Ruth et Naomi vont retourner à Bethléem. Et c'est là que Dieu est extraordinaire. Parce que d'une erreur, Dieu va faire une bénédiction. Il y a des mauvais choix qui ont été faits cette année en 2023. L'année dernière, il y a des choix qui ont été... Parce que c'est des choix peut-être du bon sens. C'est des choix poussés par la famine. C'est des choix qui étaient peut-être logiques et rationnels. Et tu te rends compte que ces choix-là n'étaient pas les choix de Dieu. Et c'est dur, tu rentres, tu reviens à la maison. Dieu te ramène à Bethléem. Et là, à Bethléem, c'est pas facile, c'est dur. Et Naomi est désespérée parce qu'elle veut que Ruth fasse sa vie. Et Dieu, par des concours de circonstances, va faire en sorte que Naomi trouve un époux de sa propre famille. Dieu, quand je vous dis que Bethléem, c'est la terre où Dieu pourvoit des erreurs, Dieu en fait des victoires. Faut-il encore être capable de revenir à la maison ? Et vous connaissez la suite parce que c'est tellement beau cette histoire. Ruth va épouser Boaz, on connaît cette histoire. Boaz va être un des arrière-grands-parents de David, et qui David va être un des arrière-arrière-arrière-grands-parents de Jésus. C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Revenir à Bethléem semble compliqué pour toi. Parce qu'il y a des enjeux, parce qu'il y a des erreurs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. C'est tellement compliqué. Mais Naomi, au final, va faire le bon choix. Et ce choix t'appartient. Ce matin, je voudrais qu'on puisse prendre un temps pour prier. Vous voulez bien ? Je vais faire vraiment un temps d'appel parce que j'ai sur mon cœur vraiment besoin d'encourager quelqu'un. Parce que l'histoire de cet homme, c'est ta vie. Élimélec, c'est toi. En t'écartant et en ne mettant pas Dieu en autorité sur ta vie, tu as fait des choix qui répondaient peut-être à une logique, à du sens, mais qui t'ont coûté tellement cher en 2023. Tellement cher. Et aujourd'hui, se pose la question en ce début d'année, est-ce que tu vas repartir sur les mêmes principes ? Est-ce que tu vas repartir sur les mêmes réalités spirituelles ou est-ce que tu vas enfin décider de vivre ce que Dieu t'appelle à être ? Celui dont le nom est mon Dieu et mon roi. Et je voudrais t'encourager ce matin dans cette prise de position parce que c'est toi, c'est ta vie, c'est tes choix en 2023. Les circonstances étaient là, oui certes, mais les circonstances ne t'appartiennent pas, mais tes choix sont à toi. Et en 2024, tu peux décider de dire « L'Éternel sera mon roi. » Dieu sera mon roi. Et si tu es sincère dans ton cœur, Dieu te montrera, Dieu fermera les portes, Dieu t'aidera à faire les choix, Dieu te conduira. Si tu veux vraiment faire de ton Dieu ton roi, Dieu va abonder dans ta vie, va te bénir, va te diriger. Maintenant, la question se pose aussi à un autre niveau, revenir à Bethléem. Qu'est-ce que c'est compliqué ? Pas facile. Il y a tellement de meurtrissures, il y a tellement de blessures, tellement de choses qui se sont passées que revenir à Bethléem, c'est tellement violent, c'est tellement dur. Le regard des uns, le parcours de vie, tout ce que tu as vécu, tellement de questionnements sur comment les choses vont se passer. Reviens. Il y a un pas de foi à faire. Revenir à Bethléem, c'est compliqué. Mais Bethléem, c'est la terre où Dieu pourvoit. Amen. Bethléem, c'est la terre où Dieu pourvoit. Et il va pourvoir pour Naomi, il va pourvoir pour Ruth, mais il va pourvoir aussi pour notre salut à Bethléem. Je voudrais t'encourager à prendre une position. Et ce matin, ça passe par ton choix de revenir à la maison et de dire, Seigneur, Bethléem est ma maison. Et où ? Et c'est la maison où Dieu pourvoira mes besoins. J'aimerais partager une dernière chose. Je voudrais peut-être t'encourager, toi qui viens pour les premières fois. Et peut-être tu as fait le constat dans ta propre vie que les choix logiques, les choix de bon sens n'ont pas été toujours les meilleurs dans ta vie. Peut-être il y a ces choix-là qui répondaient à une logique et à une famine peut-être dans ta vie. T'ont conduit à faire des choix, à prendre des décisions qui t'ont détruit. Moi, j'aimerais t'encourager ce matin à découvrir ce Dieu d'amour qui ne veut pas simplement être un Dieu, mais qui veut être un roi dans ta vie. Cette posture-là semble peut-être effrayante de se dire « mais je veux avoir un roi sur ma vie ». Je te rassure, c'est un roi tellement bienveillant, tellement rempli d'amour, qui ne suit qu'un but, ton salut, qu'un objectif, te rendre heureux et t'aimer. Je veux t'encourager ce matin à dire « Je veux que ce Dieu devienne mon roi. » Je vais prendre un dernier temps de prière, vous voulez bien ? Et je vais terminer avec ça. Je voudrais t'encourager ce matin à faire un pas de foi vers Dieu en te levant et en disant « Seigneur, je ne veux pas porter juste un nom, je veux le vivre. Je ne veux pas porter juste un nom, je veux le devenir. Je veux que mon Dieu devienne mon roi. » Accepter que Jésus vienne prendre la place, vienne être ce bon berger qui te guide dans les verts pâturages. Le psaume 23. Je voudrais t'encourager à percevoir et à sentir ce Dieu d'amour qui veut régner dans ta vie. Non pas pour s'imposer à toi, mais pour juste te protéger, te garder, t'éviter Moab quand la mort est au bout du chemin. Ne pas laisser les schémas de fonctionnement, la famine ou les raisonnements logiques t'emporter loin de lui, mais t'amener vers la mort. Seigneur Jésus, je te prie de bénir cet auditoire ce matin. Et je voudrais encourager celui et celle qui se sent interpellé à prendre le pas et simplement de dire, se lever, je veux que mon Dieu devienne mon roi. Je veux que 2024 soit une occasion pour moi de goûter à ce Dieu d'amour qui règne sur mon cœur. Est-ce que d'autres personnes veulent se lever ce matin ? Est-ce que d'autres personnes veulent dire et veulent stipuler du plus profond de leur être ? Je veux plus être gouverné par mes choix. Je veux plus être gouverné par mes choix de bon sens ou de logique. Je veux que Dieu vienne régner sur ma vie. L'Éternel, mon Dieu, je veux qu'il devienne mon roi. Est-ce que d'autres personnes veulent encore se lever ce matin ? Alléluia. Amen. Vous voulez bien prier avec moi, vous tous qui êtes assis ? On va prier pour tous ceux qui se sont levés ce matin. Seigneur Jésus, par moments, on a cheminé tellement au travers de nos décisions et nos choix. Ces choix qui répondent à du bon sens, des choix qui nous semblent être les bons. Chacun faisait ce qui lui semblait bon de faire. Par moments, cette dure réalité de nos choix nous a conduits dans des déserts. Nous a conduits par moments même à la mort. Et Seigneur Jésus, tu ne cherches pas à t'imposer à nous. Tu nous dis, c'est ton choix de faire de moi ce Dieu qui règne sur ton cœur. Et ce matin, il y a des prises de position sur l'année 2024 où les choix du passé ne peuvent se reproduire. Où les décisions du passé, dans la façon dont elles ont été prises, ne peuvent plus être prises en 2024. Il y a un choix qui t'appartient en ce début d'année de dire, mon Dieu, celui que je cherche à connaître, va devenir mon roi. Et par la foi, je revendique cette réalité dans ma vie. Je revendique le fait de dire, Seigneur, maintenant, viens guider mes pas. Viens au contrôle de mes décisions et de mes choix. Seigneur, je te prie d'aider toutes les personnes qui se sont levées ce matin. Que ce soit le résultat du 2023, que ce soit l'appréhension de 2024, que ce soit des expériences du passé qui remontent bien au-delà de l'année dernière, qu'elle soit ta réalité de ton présent ce matin. Fais le choix de dire « L'Éternel, mon Dieu, est mon roi. » Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette décision se marque dans les cœurs. Et Esprit de Dieu, honore ses cœurs et ses vies qui reviennent à Bethléem. Honore ses cœurs et ses vies qui décident de revenir à Bethléem. Au nom de Jésus. Sois loué et béni, Seigneur. Amen. Et amen.